Silence et gâteau de miel, la sagesse du désert.
Bonjour et bienvenue en ce jeudi 18 mars. Dans l'évangile d'aujourd'hui, nous entendrons Jésus demander à ses compatriotes pourquoi il cherche ailleurs ce qui est révélé en lui. Et cette question, pourquoi chercher ailleurs, c'est aussi celle à laquelle nous invitera la tradition du désert. Nous entrons dans cette méditation avec le psaume 106. Souviens-toi de moi, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Avec nos pères, nous avons péché, nous avons failli et renié. À l'Horeb, ils fabriquent un veau, ils adorent un objet en métal. Ils échangeaient ce qui était leur gloire pour l'image d'un taureau, d'un ruminant. Ils oublient le Dieu qui les sauve, qui a fait des prodiges en Égypte, des miracles au pays de Cham, des actions terrifiantes sur la mer Rouge. Dieu a décidé de les détruire. C'est alors que Moïse, son élu, surgit sur la brèche devant lui pour empêcher que sa fureur les extermine. Et nous entendons la parole de Dieu dans l'évangile de Jean, au chapitre 5, les versets 31 à 47. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs: Si c'est moi qui me rends témoignage, mon témoignage n'est pas vrai. C'est un autre qui me rend témoignage, et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean le Baptiste, et il a rendu témoignage à la vérité. Moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je parle ainsi pour que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir un moment à sa lumière. Mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Les œuvres même que je fais témoignent que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé, lui, m'a rendu témoignage. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face, et vous ne laissez pas sa parole demeurer en vous, puisque vous ne croyez pas en celui que le Père a envoyé. Vous scrutez les Écritures parce que vous pensez y trouver la vie éternelle. Or, ce sont les Écritures qui me rendent témoignage, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. La gloire, je ne la reçois pas des hommes. D'ailleurs, je vous connais. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Moi, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Qu'un autre vienne en son propre nom, celui-là, vous le recevrez. Comment pourriez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez pas la gloire qui vient du Dieu unique? Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Votre accusateur, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, car c'est à mon sujet qu'il a écrit. Mais si vous ne croyez pas ses écrits, comment croirez-vous mes paroles? Louange à toi, ô Christ. Rowan Williams, Silence et gâteau de miel, chapitre 4. Restez, première partie. Bien que les mers du désert aient été souvent mentionnées ces dernières semaines, les paroles que l'on a retenues d'elle ne forment qu'un tout petit pourcentage du total de la tradition du désert. Elles étaient toujours bien des femmes dans un monde d'hommes, même si leur enseignement était visiblement considéré avec un égal respect. Mais il est sans doute approprié ici de nous tourner vers l'une d'entre elles, Amma Syncletique, qui nous offre une image que certains pourraient trouver typiquement féminine. Si tu vis dans une communauté monastique, ne va pas ailleurs. Cela te ferait beaucoup de mal. Si l'oiseau abandonne les œufs qu'il couve, ils n'écloront pas. Et de même, le moine et la moniale refroidissent et leur foi périt s'ils passent leur temps à aller d'un endroit à l'autre. Ce thème, c'est un thème fréquent dans la tradition du désert, ce qui suggère que c'en était l'un des problèmes les plus courants. Et sur cette question, c'est une parole d'Abba Moïse qu'on cite le plus fréquemment. « Va, assieds-toi dans ta cellule, et ta cellule t'enseignera tout. » Apprendre à rester là où on est, c'est une des leçons les plus difficiles du désert, plus difficile que des formes d'ascèse apparemment bien plus rudes. Être capable de se supporter soi-même et de supporter la compagnie de ceux qu'on ne peut pas éviter de côtoyer de près, cela demande des grâces particulières, comme le souligne Jean le Nain. Si un homme a les outils que Dieu donne, il sera capable de rester dans sa cellule, même s'il ne possède aucun des outils de ce monde. Et s'il a les outils de ce monde, mais qu'il lui manque les outils que Dieu donne, il pourra toujours utiliser ces outils pour rester dans sa cellule. Mais s'il n'a ni les uns ni les autres, il lui sera absolument impossible de rester dans sa cellule. Il est possible de s'accommoder d'un certain degré de stabilité si l'on a certaines des ressources que donne le monde, certaines de ses capacités qui sont justement celles dont la vie monastique cherche à nous débarrasser. Mais précisément parce que la vie monastique cherche à nous retirer la possibilité de nous distraire à la manière habituelle, par l'imagination et la mise en scène de soi, nous aurons un réel problème si nous ne sommes pas ouverts à la grâce de Dieu. Et ce problème, ce n'est pas simplement l'ennui, c'est ce que la tradition grecque appelle l'ascédie, l'une des 8 grandes pressions sur l'âme identifiées par les diagnosticiens experts du 5e siècle et des siècles suivants. Elle a à voir avec la frustration, le désarroi, le manque de motivation, le déplacement du stress et des difficultés du monde intérieur au monde extérieur, et ainsi de suite. Évagre et Cassien en ont donné une description classique dans leurs écrits sur les passions. La matinée passe lentement, l'atmosphère devient de plus en plus chaude et moite. Il y a encore un long moment à tenir avant de pouvoir manger ou de faire une pause dans la routine. On se sent assommé et on s'ennuie, à force d'avoir passé des heures à tresser des paniers de roseaux. Est-ce qu'on a seulement progressé un peu? Ou bien est-ce que cette vie est tout aussi monotone que le sable environnant? Certainement ailleurs on aurait pu progresser. Au fond, dans ce paysage mort, c'est impossible de partager ce que l'on découvre, si d'ailleurs on finit par découvrir quelque chose. Et puis, comment cette vie-là pourrait-elle ne pas être égoïste? Certainement, il doit bien y avoir un frère qui aimerait une visite, qui aurait besoin de quelque chose. Est-ce que je ne serais d'ailleurs pas plus utile en ville, de toute manière? C'est là qu'il y a de réels besoins, des besoins auxquels je pourrais répondre tellement efficacement. Si seulement je pouvais être n'importe où, sauf ici et maintenant. Pas besoin d'être un ermite pour faire ce genre d'expérience. Toute personne qui vit avec une certaine routine en reconnaîtra les symptômes immédiatement. C'est un fait que nous ne voulons pas commencer là où nous sommes. Et cette réponse célèbre à la question de quelqu'un qui se demande comment arriver à tel ou tel endroit, « Je commencerai à partir d'un autre point de départ. » C'est exactement ce que nous ressentons. Et si, dans le contexte du désert, de ses pratiques et de ses disciplines, nous avons été d'une certaine manière amenés où nous sommes vraiment, si nous avons fait connaissance avec qui nous sommes vraiment, ce n'est pas mieux, c'est pire. Il n'y a pas de distraction. Il n'y a pas tous ces petits jeux auxquels nous pouvons jouer dans nos relations avec les autres pour nous rassurer ou nous donner une impression de maîtrise et qui nous sont interdits si nous avons été attentifs à ce que nous ont enseigné nos guides spirituels. Notre ego se débat, se plaint, gesticule et supplie, Et il y a une solution évidente, impérieuse, presque incontestable à tout cela, qui est à notre portée. Changeons ce que nous pouvons. Partons. Évagre connaissait bien cela, comme tous les pères moines d'Orient. Et saint Benoît aussi, lui qui écrivait des remarques acides sur les gyrovagues, ces moines qui passent leur vie sur les routes à la recherche d'une communauté qui leur convienne. N'importe où sauf ici, n'importe quel frère sauf cela. Une sentence anonyme relève aussi combien nous nous illusionnons nous-mêmes quand nous voyageons à la recherche d'un guide spirituel qui nous convienne vraiment. L'ancien de cette anecdote demande aux jeunes en recherche si, au fond, il ne cherche pas un ancien qui, au lieu de lui dire quoi faire, fasse ce que lui, le client, veut. « Est-ce que c'est vraiment ça que tu cherches pour trouver la paix ?» lui demande-t-il. Nous nous persuadons trop facilement que le problème de la croissance spirituelle peut être localisé hors de nous-mêmes. Ailleurs qu'ici, je pourrais être plus gentil, plus sain, plus équilibré, moins sensible aux critiques, plus discipliné, et sans aucun doute qu'en plus je chanterai mieux et je serai plus mince. Quelque part, il y a une personne sainte qui me comprendra vraiment, et qui donc ne me rendra pas la vie si difficile. Le fantasme, par certains côtés, a un énorme avantage sur la réalité. C'est qu'il n'est pas obligé de se soumettre aux lois de la causalité. Mais voilà. Nous, nous y sommes soumis. Nous prions. Seigneur, bien souvent je ne viens vers toi que lorsque je ne sais plus où aller ailleurs. Et alors je t'en veux de ne pas être aussitôt magique, de ne pas transformer le monde à ma propre image. J'ai du mal à reconnaître que tu es beaucoup plus proche de moi, ici, dans mes journées pénibles et ordinaires. Pour me parler et me toucher, tu as pourtant revêtu ma chair, grandi comme un enfant, travaillé comme un ouvrier, enseigné comme un rabbin, risqué ta vie comme un prophète, et tu es mort comme un malfaiteur. Pour m'entraîner à ta suite, tu ne demandes encore que la chose la plus simple, la plus désirable et qui devrait être la plus ordinaire. Aimer de tout son cœur, de tout son esprit, de tout son être. T'aimer, toi, le tout autre et aussi bien tous les autres, mes semblables dont tellement je diffère ou qui m'indiffèrent. Seigneur, comme il est difficile de reconnaître ta présence, et de t'obéir en vérité dans mes jours ordinaires. Viens à mon aide. Amen.